Bonjour à toutes et à toutes, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Aujourd'hui, j'espère vous proposer une émission à haut potentiel intellectuel qui nous permettra de faire le point sur une réalité donnant souvent lieu à certains stéréotypes pour mieux les dire ou les contredire. Rendez-vous compte. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Alors Clémentine, avant de commencer, j'aimerais te faire entendre un reportage d'Envoyé spécial diffusé le 6 mai 2023 à propos d'une certaine très jeune fille qui s'appelle Lucie et qui a 11 ans. On écoute et après on en discute.
Une petite prodige à qui tout réussit. En classe de 3e à l'âge de 11 ans, Lucie parle couramment 3 langues et a sauté 4 classes. Avec un QI, quotient intellectuel à 149, Lucie est dotée de ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, HPI.
Pour moi, être HPI, c'est une grande chance parce que j'aime bien gagner, j'aime bien réussir.
Alors Clémentine, est-ce que ton parcours correspond à celui de Lucie ?
Absolument pas, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que chaque personne à haut potentiel a un parcours qui lui est propre. Et pour mon cas, j'ai sauté aucune classe. Mes parents ont hésité, en ont beaucoup parlé avec la maîtresse, mais j'étais trop sensible et donc ça pouvait être mauvais pour moi vis-à-vis de mon rapport avec mes amis, etc. par exemple. Mais c'est vrai que comme Lucie, depuis très longtemps, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je suis passionnée par la justice, le droit, et depuis que je suis en quatrième, un jour j'ai dit à mes parents, je veux être procureur de la République, et aujourd'hui je suis en fac de droit et j'aspire à devenir procureur de la République. Je pense que je suis un peu d'accord avec Lucie sur le fait qu'être à haut potentiel, c'est une chance, certes, mais qu'il faut savoir en prendre conscience. Parce qu'au départ, on peut mal le vivre, c'est quelque chose qui est quand même, qu'il faut accepter, qu'il faut faire avec, il faut se construire avec cette particularité. Et donc c'est une chance quand on sait faire.
Un jour tu sors de chez le psy, on a disséqué ton QI. Te voilà tout diagnostiqué, un peu perché, t'es un HP. Tu fais partie des 2% de ces esprits arborescents, de ces machines à tourments qu'ont oublié d'être inconscients. C'était donc ça, ce goût amer qui jusque-là te balançait à la dérive d'une galère, faisant de toi un désœuvré. À nos zébrés, nos décalés, stars du pourquoi, roi du comment, à nos doués, nos dévoués, à tous les super efficients, à nos idées de farfelus, à tout ce qui nous semble évident, au-delà de ce qui n'est plus, nous on fait dans le sentiment. Tu le trimbales sous ton bras, ce fameux QI de géant, à côté de tes yeux d'enfant, au bord d'un cœur de guingois. Ton monde à toi, il est ailleurs, planqué bien à l'abri du leurre. T'as pas trouvé meilleure cachette pour éviter toutes leurs fléchettes.
Bien sûr, définis quelqu'un à haut potentiel avec un QI, un quotient intellectuel égal ou supérieur à 130. Il serait aujourd'hui environ 134 000 Français, ce qui représente quand même 2% de la population.
C'est très peu.
Oui, peu, mais il y a la qualité, on va dire.
Voilà.
Alors, est-ce que tu es comme Lucie, une petite prodige à qui tout réussit ?
Alors, on peut le penser. Quand on est d'école, on nous qualifie de intello, par exemple. Oui, être surdoué, ça peut faire partie des qualités d'une personne à haut potentiel. Malgré tout, pas toujours. Être HPI, ça s'exprime pas toujours selon les compétences scolaires. Ça peut aussi être des compétences artistiques. Un HPI peut être très doué en musique, par exemple. Il faut pas se réduire à ses capacités scolaire, parce que j'ai connu des personnes qui étaient HPI et qui avaient un parcours scolaire pas très bon, mais ce qui n'enlevait pas leur intelligence supérieure à la moyenne. C'est juste qu'ils l'exprimaient d'une façon différente. Donc je trouve ça assez réducteur de dire simplement un petit prodige qui réussit tout, parce que c'est quand même difficile, pas dans un seul domaine.
Souvent, c'est très jeune qu'on détecte qu'un enfant est à haut potentiel. Souvent, c'est à l'entrée en primaire. Est-ce que ça a été ton cas ?
Pas du tout. Là, une nouvelle fois, j'ai un parcours assez atypique parce que j'en ai beaucoup parlé à ma psychologue, mais on a utilisé le terme de haut potentiel quand j'ai eu 15 ans, donc à l'arrivée au lycée, ce qui est assez tard par rapport à la moyenne et qui a été un grand chamboulement dans ma vie, parce que quand on a 15 ans, on a passé la grande partie de la puberté. On s'est construit une identité et ça a été une grande remise en question pour ma part. Donc, encore une fois, atypique.
Et à la suite de quoi est-ce qu'on a pu évoquer ce caractéristique de haut potentiel ?
Alors, je suis allée voir une psychologue parce que je me faisais harceler au collège. J'ai vécu plusieurs phases de harcèlement en primaire, au collège. Et les deux années au collège m'ont vraiment, vraiment détruite, m'ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, il a fallu que j'aille voir une psychologue, ce qui a été déjà très difficile comme initiative, de me dire que j'avais besoin d'aide. Et c'est au travers des dialogues avec elle, on a pu évoquer mes traumatismes, ma manière de fonctionner par rapport aux autres en société, comment je vis, comment je m'adapte. Et c'est à partir de ça qu'on a déduit que j'étais à haut potentiel et que j'avais une manière de fonctionner qui était différente. Et que certains n'avaient donc pas très très bien compris, certains de mes camarades qui m'ont fait du mal.
Est-ce que tu pourrais préciser quel type de harcèlement tu as subi ?
Alors j'ai vécu du harcèlement psychologique, du harcèlement physique, mais aussi du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Chaque branche du harcèlement fait de mal. Il n'y en a pas une qui fait plus mal que les autres, mais le fait de les combiner, c'est vraiment... on a l'impression que ça nous poursuit. Que je vais à l'école, je me fais harceler, qu'en classe, je me fais harceler, et que quand je rentre chez moi, un endroit qui est censé être ma maison, mon foyer, où je suis en sécurité, et bien même là, ça me poursuit, parce que voilà, les réseaux sociaux, on y a accès très trop jeune, je m'en rends compte aujourd'hui, hein. Après j'avais 14 ans, mais c'est dangereux, il faut vraiment limiter ça, parce que ça peut conduire à des situations absolument terribles. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui mettent fin à leur jour à cause de ça, que ce soit sur les réseaux ou même dans la vie. Et ça n'a pas été mon cas, bien heureusement. J'en suis reconnaissante aujourd'hui. Mais il faut vraiment continuer de faire des campagnes de sensibilisation qui sont réellement utiles, parce qu'une affiche sur un mur dans un lycée, pour moi, ça ne suffit pas. On ne la lit pas. On passe devant, on voit, on sait que c'est là. Comme le harcèlement, on sait que c'est là, mais... Pour agir, il faut aller plus loin que ça.
Les gens qui te harcelaient, tu les connaissais ?
Oui, c'était des anciens amis.
Souvent, c'est ça ?
C'est toujours ça. Mmh. Ouais, très très souvent, que ce soit en primaire ou au collège, les personnes qui m'ont harcelée étaient d'abord des amis très très proches. Et ensuite, cette amitié s'est transformée en quelque chose de très toxique. Mmh. Et c'est justement là que c'est difficile, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite.
C'était plutôt garçons, filles ?
Des filles. Ouais. Généralement des filles, mais qui étaient entourées de gros groupes d'amis, où dedans il y avait des garçons, mais c'est pas eux qui m'ont fait le plus de mal.
Voilà, ça aussi c'est un stéréotype, on pense que le harceleur c'est forcément un garçon, alors que souvent c'est quand même une fille et une ancienne amie.
Oui.
Ce qui fait d'autant plus mal.
C'est ça.
Parce qu'on connaît tout de l'autre et on sait là où ça peut faire mal.
Ah ben, j'ai une amie qui m'a dit un jour. Mais Clémentine, en trois mots et deux phrases, je sais que je peux te faire sauter d'un pont.
Waouh.
Et je trouve ça, aujourd'hui quand j'y pense, c'est absolument terrible que quelqu'un ait pu dire ça à une personne qui avait 13 ans à l'époque. Et elle, je savais qu'elle avait ce pouvoir sur moi. Et c'est pas normal.
Non, c'est pas normal. Et alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment tu as pu réagir ? Comment tu as pu te remettre ?
Ça a été très 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 dur, parce que comme je l'ai évoqué avec ma psychologue, ça a été un traumatisme. Comme j'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à d'abord aller voir une psychologue, à en parler à mes parents. Mes parents, à l'heure actuelle, ne savent pas tout, d'ailleurs, de ce qui s'est passé. Il y a des choses que je garde pour moi, parce que c'est important et c'est dur d'admettre aussi. J'en ai parlé à mon collège, mais je dois avouer que la réaction n'a pas été celle que j'attendais. On n'a pas beaucoup agi, malheureusement. Et donc oui, ça a été... en fait, le confinement m'a sauvée. Parce que le fait d'être chez moi, d'être éloignée de ces personnes-là, même si ça continuait sur les réseaux sociaux, bah, j'avais juste à couper mon téléphone et puis on me laissait tranquille. Donc c'était à la fin de la quatrième pour moi, le confinement. Et quand je suis revenue en troisième, il y a eu un départ, ça a essayé de recommencer. Et j'ai essayé d'ignorer. Et heureusement, ça a fonctionné, on m'a laissée tranquille à la mi-troisième. Donc ça a été un parcours semé d'embûches, mais qui s'est bien terminé.
Qu'est-ce que tu aurais aimé comme réaction des responsables de ton collège ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ?
Ils auraient dû m'écouter, tout simplement. J'ai eu du mal à y aller, à aller voir le CPE. Et quand j'y suis allée avec des preuves, des captures d'écran, des messages que j'ai reçus, ils s'est contenté de les convoquer. Et ses filles ont dit non, c'est pas vrai. Et à partir de ce moment-là, il s'est rien passé.
Voilà. C'est souvent le cas.
C'est dommage.
Pas de vague. En tout cas, pas de suite. Voilà. Ça commence à bouger quand même.
Bien sûr, oui, oui.
Parce qu'il y a eu tellement de drames, on en a tellement parlé, les parents on en parlait aussi, donc ça commence à bouger. Mais comme tu le dis, souvent les adultes ne se rendent compte de rien.
Non.
Les professeurs, les CPE, tout ça, ils ne se rendent compte de rien, donc il faut raconter.
Mais c'est aussi parce que quand on se fait harceler, on veut le cacher.
Voilà.
Donc un enfant, s'il veut cacher, il sait comment faire. Et il faut engager ce dialogue avec les parents, c'est ce qui est le plus important.
Et selon la formule actée maintenant, il faut que la honte change de camp.
Exactement.
Voilà. Alors, ce harcèlement, je ne vais pas dire qu'il a eu une bonne conséquence, on va dire, mais en tout cas, il a déterminé le choix de tes études et de ta future profession, tu en as parlé.
Exactement, oui. Le droit, pour moi, c'est justement en quatrième que je me suis dit, je veux agir pour la justice, je veux que les personnes qui font du mal soient punies, tout simplement, et c'est au travers du métier de procureur de la République, c'est quelqu'un qui représente la société, ses intérêts, l'État, et pour moi, la société devrait vivre sans harcèlement, sans meurtre, sans vol. En tout cas, c'est assez idéaliste, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire bouger les choses et au moins de permettre aux personnes qui font du mal de ne plus en faire.
Et donc, tu as commencé tes études de droit.
Exactement, je suis en L1, en licence 1 de droit à l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
Alors, est-ce que ça correspond à tes attentes, tes envies ?
Oh oui, oui, je suis très très satisfaite de ce que je fais aujourd'hui. Je me sens très épanouie et ça me rend heureuse.
Voilà, combien de temps il faut pour devenir procureur ? Combien d'années ?
Il faut entre 7 et 8 ans.
Ouais, un peu comme médecin, un peu moins peut-être.
Un peu moins que médecin, voilà. Oui.
Mais écoute, tu reviendras nous voir quand tu seras procureur.
Avec grand plaisir.
On se donne rendez-vous. En attendant, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons aujourd'hui Clémentine. On écoute le premier titre que tu as choisi.
C'est Les Étoiles Filantes des Cowboys Fringants. C'est un groupe québécois qui fait de la musique et qui rédige des textes absolument magnifiques qui ont beaucoup compté pour moi, pour ma famille, parce qu'on les écoute dans la voiture depuis qu'on est toute petite avec ma sœur. Nos parents nous les ont découverts quand ils étaient jeunes. Et cette chanson, Les Étoiles Filantes, elle parle de la jeunesse, de la vie, mais aussi de l'espoir. Et c'est une chanson qui m'a vraiment fait du bien pendant les périodes difficiles. En plus de ça, j'aimerais rendre hommage à Carl Tremblay, qui est le chanteur des Cowboys Fringants, qui est décédé très récemment. Et c'est un événement qui a beaucoup touché le Canada, parce que ce groupe est très très célèbre là-bas. Et qui forcément a touché ma famille, donc c'était important pour moi de lui rendre hommage.
Alors il faut préciser aussi que tu es née au Québec, je crois. Encore quelque chose d'un peu atypique, on va dire.
Exactement.
On écoute.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je raconte des souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque. Où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires. Et que mon sac de vie devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos. Et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De la petite école et de la cour de récré. Dans les avions en papier ne partent plus au vent. On se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit et que les rêves des ticus s'évanouissent.
Voilà, on retrouve dans ce rendez-vous compte Clémentine. Alors Clémentine, qui est diagnostiquée, entre guillemets, bien sûr, au potentiel. Alors j'ai trouvé un article qui est paru le 15 novembre 2024, récemment, dans les pages étudiants du Figaro. Un article intitulé « Les enfants HPI ont souvent cette petite manie que les autres n'ont pas ». Eh bien, l'article raconte, avec bien des détails, que des enfants à haut potentiel adorent le dictionnaire. adorent apprendre des mots nouveaux. Et certains même, alors là j'ai bien relu l'article quand même, sont capables de le connaître pratiquement par cœur. Est-ce que c'est ton cas, Clémentine ?
Alors non, pour le coup, j'ai pas appris le dictionnaire par cœur. Mais je me retrouve aussi un petit peu parce que justement dans les livres de droit, quand j'étais petite, à mon anniversaire, on m'offrait des livres pour étudier le droit, ce qui peut paraître très surprenant. Et j'adorais me plonger dans des témoignages de personnes qui faisaient du droit et dans des livres, tout simplement des manuels de droit. Ça a été pour moi passionnant. Et le terme de petite manie m'a aussi interpellée parce que j'ai beaucoup de petites manies et de choses qui font que c'est assez... Des choses assez surprenantes, par exemple, la mousse, je déteste ça. Cette texture. Et les personnes à haut potentiel, souvent, ont des petites particularités comme ça. Par exemple, ma sœur n'aime pas beaucoup d'aliments, parce que oui, ma sœur est HPI aussi, ma petite sœur, et elle n'aime pas beaucoup d'aliments. Moi, j'aime pas la mousse. Enfin, voilà, c'est des petites particularités qui sont aussi atypiques que nous et qui font notre identité aussi.
Peut-être qu'il y a là un arbre dont tu aimerais la mousse, c'est peut-être le hêtre. Voilà, petit clin d'œil à une autre émission. Donc, alors j'ai aussi lu un autre article, alors là carrément très très médical, qui s'appelle « Les 12 signes pour savoir si on est HPI ». Ça a été publié sur le site d'un site internet qui s'appelle laclinique-et-santé.com. Alors, comme signe pour savoir si on est HPI, il y a l'hyperactivité cognitive, et une mémoire hors du commun. Est-ce que c'est ton cas ? Est-ce que tu as une très bonne mémoire ?
Oui.
Pour le droit, c'est utile.
C'est très, très utile, oui. La mémoire et l'hyperactivité cognitive, c'est des choses que je connais au quotidien. C'est-à-dire que le cerveau qui fonctionne, qui peut même nous empêcher de dormir à force de tourner en boucle. Et c'est vrai que pour le droit, c'est de retenir énormément de définitions, de termes spécifiques. Qui appartiennent à un vocabulaire spécifique, ça sert. La mémoire est vraiment, vraiment un atout et je m'en sers. Aussi que être HPI, ça peut être une bonne chose.
Alors, tu dis hyperactivité cognitive, par exemple, au point de jamais arrêter ton cerveau, quoi.
C'est ça. Le cerveau ne veut pas s'arrêter, ce qui mène à de nombreuses insomnies aussi. Il faut trouver le moyen de s'apaiser. J'ai trouvé au travers de la lecture, par exemple. Il y en a d'autres qui écoutent de l'ASMR, par exemple.
C'est quoi l'ASMR ?
Alors, c'est difficile à définir, mais c'est des vidéos qui mettent en valeur des petits bruits, comme des bruits quand on touche du bois, quand on gratte quelque chose, des bruits de bouche, la respiration. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça apaise dans mon entourage, et j'avoue, je ne suis pas absolument fan, mais c'est vrai que j'ai testé certains soirs d'insomnie pour voir si ça fonctionnait.
Et compter les moutons, non ? Comme on disait avant, non ?
Ah, parce que là, c'est mon cerveau mathématique qui part et je rajoute des X dans les moutons. Donc
ah oui, alors là, compliqué. Si ça devient des équations à trois inconnues, non, ça ne fonctionne pas. Alors, dans cet article aussi, le haut potentiel intellectuel est associé au haut potentiel émotionnel, qui est caractérisé par une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, c'est ton cas ?
Oui. Alors, il faut distinguer HPI de HPE.
Oui.
Une hyperactivité sensorielle, c'est-à-dire les cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, comme je disais, par exemple les textures. Voilà, c'est une hyperactivité sensorielle. Avoir beaucoup de mal quand il y a beaucoup de bruit, des odeurs très fortes qui peuvent nous déranger alors que certaines personnes ne peuvent ne pas les sentir. Et puis une hyperactivité émotionnelle qui me caractérise aussi. Je suis hypersensible et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte au quotidien aussi, savoir gérer ses émotions et les comprendre.
Autre signe, une grande résilience, c'est-à-dire une grande capacité de rebondir quand une fois on a vécu une situation difficile. C'est ton cas, je crois.
Oui, évidemment, avec le harcèlement, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais... Après de nombreuses années, j'ai su me rendre compte, que ça m'a aidée dans la vie de tous les jours, parce que maintenant, je sens mieux les personnes, je sais à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance. J'ai appris à ne plus être naïve, évidemment, quand on se fait avoir au bout d'un moment. Alors, ça peut être à double tranchant, parce que je me suis aussi forgé une carapace qui est peut-être un peu trop solide et qu'il faut ouvrir. Mais ça m'a aidée dans la vie au quotidien. Maintenant, je sais comment je fonctionne aussi, je sais ce qui me fait mal. Et voilà, c'est un mal pour un bien, c'est fort de dire ça. Mais il faut voir de la résilience, quoi qu'il arrive, parce que sinon on s'en sort pas et on tourne dans une spirale infernale et on s'en sort jamais.
Voilà, ce qui ne t'a pas détruite t'a rendue plus forte.
Exactement, c'est ça.
C'est un peu ça, la résilience, oui. Alors, autre signe, soi-disant, caractéristique, une forte empathie pour les autres.
Oui, je ressens beaucoup les émotions des autres, des personnes qui m'entourent. Mmh. Et ça fait aussi partie d'une grosse remise en question quand j'ai eu 15 ans. Donc j'ai parlé avec ma psychologue encore une fois parce que j'avais l'impression que toute ma vie, j'avais ressenti ce que les autres ressentaient, mais pas ce que moi, j'avais ressenti. Et ça a été très dur d'essayer de réaliser ça et de se dire non, j'ai des émotions, je ne fais pas que en fonction de ce qui m'entoure. Mais c'est quelque chose qui est dur à accepter parce que oui, on s'adapte beaucoup à notre entourage et à ce qu'il ressent pour mieux le comprendre, pour mieux s'adapter. Et c'est pour ça que les émotions ont une place centrale dans notre vie parce qu'elles ont une place centrale dans la vie de tout citoyen aujourd'hui.
Voilà, c'est pas forcément la raison qui domine le monde, c'est souvent les émotions, les passions.
C'est ça.
Malheureusement.
Parfois, mais parfois c'est beau aussi de laisser parler ses émotions.
À condition, c'est comme un petit peu comme le vin ou la bière, bah c'est avec modération.
Exactement.
Autre signe, alors là j'ai découvert ça, ce qu'on appelle le faux self.
Oui. C'est le fait de entre guillemets, se créer une personnalité pour s'adapter aux autres. C'est ce que j'ai dû faire une nouvelle fois. Parce que quand on a l'impression d'être soi-même et que ça ne fonctionne pas, qu'on se fait harceler, qu'on se fait critiquer, eh bien on cerne les autres, ceux qui nous entourent, et on crée une personnalité de façon à ce que ça leur plaise, à ce qu'on soit accepté dans un groupe social. J'en suis allée jusqu'à baisser mes notes pour qu'on m'accepte, et à rire à des choses qui ne me faisaient pas rire, de parler d'une certaine manière qui n'était pas la mienne. Mais c'était une manière pour moi de me fondre dans la masse pour qu'on me laisse tranquille aussi. Mais c'est triste de devoir en arriver là, à se cacher. Et je sais que l'adaptabilité, c'est une grande capacité des personnes à haut potentiel parce qu'on vit dans une société qui n'est pas faite pour nous. Et donc, on se doit de s'adapter et de fonctionner d'une certaine manière.
Et alors, est-ce que tu es parfois toi-même le vrai self ?
J'ai eu beaucoup de mal à être le vrai self, à être moi. Mais je sais que je suis toujours moi avec mes amis, maintenant les bons amis que j'ai trouvés. Et quand je fais du tir à l'arc ou la musique... du violoncelle plus particulièrement. Là, je sais que c'est moi qui m'exprime, que c'est moi qui fais mon sport avec les personnes qui m'entourent, qui sont mes proches. Et là, je me sens bien.
Alors, le tir à l'arc?
C'est un sport merveilleux. C'est un sport qui est une affaire de famille, que je pratique avec ma mère, ma sœur. Ma mère faisait déjà du tir à l'arc quand elle était enceinte de moi. Et qui me permet de me vider la tête parce que ça demande une grande concentration. Mais qui permet aussi d'apprendre à gérer ses émotions, le stress par exemple en concours. Et ça a été très très dur pour moi, mais aujourd'hui j'y arrive. Et une nouvelle fois, la résilience, il y a eu des moments difficiles, mais on apprend à faire avec et on met la flèche dans le jaune.
Et tu m'avais expliqué d'ailleurs avant qu'on commence l'émission que tu ressentais souvent le symptôme de l'imposteur.
Oui, j'ai ressenti ça très longtemps, principalement pendant mon lycée. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais c'est cette impression que tout ce qu'on réussit, on n'est pas légitime, que c'est normal. Enfin, que si j'ai eu une bonne note, c'est parce que c'est juste grâce à ma mémoire, parce que en fait, j'y arrive mieux que les autres, mais c'est pas mes capacités, c'est juste celle de mon cerveau. Faut arriver à être fier de soi, à ne pas se dire, mais non, c'est juste normal. C'est un syndrome qui est dur à vaincre, vraiment, vraiment. Mais il faut apprendre à être fier de soi, à se rendre compte que ce qu'on fait, c'est beau. J'ai été prise à l'école de mes rêves, c'était pas juste mon cerveau qui a fonctionné tout seul, c'est ma personnalité, parce qu'on prend aussi en compte notre engagement. Et c'est moi qui ai réussi. C'est pas juste mes capacités intellectuelles qui m'ont permis de réussir.
C'est quoi l'école de tes rêves ?
C'est Assas.
D'accord. L'université Assas.
Exactement, oui.
Je ne sais pas si on l'a déjà désigné de cette façon, mais c'est...
C'est la meilleure.
D'accord. Nous sommes bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Clémentine. On écoute le deuxième titre que tu as choisi, alors là bien sûr.
Dancing Queen de ABBA.
Alors il faut préciser qu'on est d'accord sur tout avec Clémentine, sauf qu'elle affirme que ABBA est le plus grand groupe musical de tous les temps. Et moi je pense plutôt que ce serait plutôt les Beatles. Mais à part ça, voilà. On écoute Dancing Queen. Sur IDFM. Si tu nous parlais de la série HPI qui est passée depuis quelques temps sur les ondes.
Alors j'en ai vu que quelques épisodes au tout début de la série et je dois avouer que ça m'a pas plu du tout. J'ai pas du tout adhéré avec ce principe, le fait, parce que les personnes HPI au potentiel ont une représentation aujourd'hui qui est très faible. Quand on parle de personnes HPI, HPE, on ne sait pas de quoi on parle. Heureusement, en ce moment, ça change. Mais c'est vrai qu'on a une très faible représentation. Et j'ai trouvé ça dommage que la représentation qu'on a enfin sur la première chaîne de France, bah, ce soit une représentation totalement caricaturale. Alors certes, il y a des personnes HPI qui sont comme ça aussi.
Exubérant et
tout.
Et qui sème la pagaille partout.
C'est ça, c'est ce qu'on a pu voir du personnage de Morgane. Mais il y a aussi des personnes HPI qui sont très posées, qui ont besoin de calme. Et c'est vraiment cette caricaturalité que j'ai pas du tout appréciée. Parce que forcément, quand on me dit HPI, je me suis aussi vue à travers... j'ai essayé en tout cas. Et il y a certains moments quand elle réfléchit, quand elle observe...
Le personnage d'Audrey Fleurot, ouais.
C'est... On se reconnaît, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui m'a dérangée.
Déclinez votre identité.
Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et au potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent.
C'est quoi votre truc? Vous êtes surdouée?
Quand je vois une énigme, eh ben, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix.
Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage?
Ça me paraît que j'ai un problème avec l'autorité.
Emmène-la avec toi.
Je t'emmène où?
Prends-la avec toi sur l'enquête.
Tu plaisantes, j'espère.
Cette fille a 160 de QI.
Mais je me fous de son QI.
Salut les poulets. Petite chouquette.
On est sur une scène de crime, là. Touchez à rien, s'il vous plaît.
Laissez-moi réfléchir, parce que là, vous me perturbez.
Elle n'a pas fini de vous surprendre. HPI, bientôt sur TF1.
Un dernier mot, Clémentine.
Ben merci de, justement de permettre de parler aujourd'hui des personnes à haut potentiel, mais aussi du harcèlement, parce que c'est très important. Il faut en parler, que ce soit un ami, un parent. C'est primordial, on en a besoin pour se sauver, pour sauver les autres. Et si on est harceleur, il faut aussi se rendre compte et aller en parler. Il faut assumer. C'est une erreur, certes, mais après, il faut faire en sorte que ça aille mieux.
Voilà, le harceleur va plus mal que le harcelé en général.
En général, la culpabilité ronge par la suite.
Merci Clémentine. C'était Rendez-vous compte, une émission présentée par Didier. Une émission que vous retrouverez, comme toutes les autres, en podcast sur le site d'IDFM. La semaine prochaine, même heure, même adresse. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département. et dans notre rendez-vous compte, évidemment.